Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire sur le thème des vêtements liturgiques. Pour cela, j'ai invité Monsieur l'abbé Philippe Ferré, directeur de la bibliothèque diocésaine et prêtre coopérateur dans la paroisse de la Trinité sur le chemin de Saint-Jacques. Monsieur l'abbé Ferré, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer tout d'abord quelle est l'origine des vêtements spéciaux pour les prêtres dans la liturgie.
Eh bien, dans les premiers siècles, la liturgie chrétienne était célébrée sans aucun vêtement distinctif. On reconnaissait celui qui présidait non à son vêtement, mais à la place qui était la sienne ou à son rôle dans l'assemblée. Et au début du 5e siècle encore, dans les années 400, il n'était pas question d'un vêtement distinctif ni pour l'évêque ni pour le clergé. Le vêtement courant dans le monde gallo-romain, ou disons même plus généralement dans le monde romain, était la tunique, disons une sorte de chemise, et par-dessus un grand manteau couvrant tout le corps, une sorte de poncho, pièce circulaire, généralement en laine et percée d'un trou au milieu pour passer la tête. C'est l'origine de ce qui sera dans la liturgie la chasuble de l'évêque ou du prêtre.
Alors, monsieur l'abbé Ferré, parlez-nous de cette chasuble qui est toujours utilisée aujourd'hui.
On l'appelait chasuble en Gaule. Et à Rome et en Italie, elle s'appelle toujours la planeta. Bon, c'était donc à l'origine un vêtement civil, très courant au IVe siècle, qui par la suite sera progressivement adopté comme vêtement habituel du prêtre dans la liturgie. Vêtement habituel et donc initialement pas vêtement distinctif. Mais on s'habille bien pour présider l'assemblée.
Alors, à l'époque carolingienne, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, à l'époque carolingienne, elle pourra devenir un ornement magnifique au temps de Charlemagne. Puis, elle prendra une forme non plus ronde, mais ovale, pour que les bras soient plus dégagés. Ça, c'est peut-être difficile à expliquer à la radio, mais... Et vous pouvez voir au portail sud de la cathédrale, sur les grandes statues, de très beaux exemples de vêtements liturgiques au XIIIe siècle.
Alors, et un peu plus tard...
C'est-à-dire, disons, au XVIIe siècle, donc beaucoup plus proche de nous, pour libérer totalement les bras, la chasuble prendra alors une forme carrée sur le dos, enfin rectangulaire, si vous voulez, et très échancrée par devant, ce qui lui vaudra d'être appelée boîte à violon, c'est l'expression courante aujourd'hui encore. Ce sont la plupart des chasubles portés jusqu'au milieu du siècle dernier, que l'on trouve encore dans nos sacristies. Elles sont généralement ornées d'une grande croix sur le dos. N'oublions pas que le prêtre célébrait dos était à l'autel, dos tourné, tournant le dos à l'assemblée. Et il y en a qui sont magnifiquement décorés. Mais vers la fin du XIXe siècle, l'abbaye de Solesmes, avec son abbé Don Guéranger, qui a été un grand liturgiste, va militer pour le retour à la forme ample de la chasuble, conduira au XIXe siècle, on l'appellera la forme gothique, parce qu'on appelait facilement gothique tout ce qui était du Moyen-Âge. En fait, elle n'a rien de gothique. C'est la forme qu'adoptera à Chartres Monseigneur Arsquet dès 1927 pour célébrer, comme on dit, face au peuple. Il est vrai que célébrer face au peuple avec ce qu'on appelle les boîtes à violon manque totalement d'élégance.
Alors, pourriez-vous nous parler, monsieur l'abbé Ferré, de la chasuble qui porte le nom de dalmatique ?
Alors, c'est aujourd'hui le vêtement liturgique du diacre. Tout à fait différent de la chasuble. La chasuble, donc, est de l'ordre du manteau, plutôt en laine, et la dalmatique serait plutôt de l'ordre de la chemise, par en dessous, plutôt en toile de lin, à l'époque. Elle a, ou en soie. Mais la dalmatique a aussi son origine dans les vêtements romains de l'Antiquité. Donc une sorte de robe de lin avec de larges manches. On a attribué l'origine à la Dalmatie, d'où son nom, la Dalmatie, pays riverain de la mer Adriatique. C'était un vêtement précieux, plus ou moins richement décoré. Et à quelques nuances près, avec des manches moins larges, ce sera aussi le vêtement des sous-diacres. Dans les derniers siècles, le XVIIe, XVIIIe siècle, les manches seront encore échancrées, transformées en ailerons disgracieux. Il en reste encore dans les sacristies des cathédrales et des principales églises, parfois utilisées dans les grandes célébrations, les processions. Et elles sont souvent de la belle confection. Mais maintenant, dalmatique et chasuble sont dans le même tissu. Au Moyen-Âge, avant de revêtir la chasuble, les évêques porteront la tunique du sous-diacre et par-dessus la dalmatique du diacre, et enfin la chasuble. Ce qui rappelle que l'évêque a été précédemment ordonné diacre, puis prêtre. Vous pourrez voir ces ornements sur les grandes statues du portail sud, avec de magnifiques broderies. On voit très bien la dalmatique sous la chasuble et la richesse de son ornementation.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église ouverte en Eure-et-Loir sur le thème des vêtements liturgiques. C'est Monsieur l'abbé Ferré qui est mon invité. Monsieur l'abbé, nous venons d'évoquer l'origine des vêtements liturgiques et en particulier celle de la chasuble. Il nous faut évoquer aussi l'étole que portent les prêtres, mais aussi les diacres.
Alors l'étole, c'est une longue bande d'étoffe étroite, portée autour du cou pour retomber par devant en deux bandes parallèles. Elle a été un insigne spécifique du diacre en Orient dès le IVe siècle, mais n'a été en usage en Occident qu'à partir de la fin du VIIe siècle, c'est-à-dire peu avant Charlemagne, pour situer. Je souligne ça au passage, parce qu'au fond, les ornements ont beaucoup évolué au cours de l'histoire de l'Église. Et vous verrez au portail sud, je vous renvoie toujours à la cathédrale.
Bah c'est normal, monsieur l'abbé, vous êtes un spécialiste de la cathédrale en plus.
Oh non,
hein.
non, c'est... Au XIIIe siècle, les diacres portaient à Chartres l'étole droite, comme les prêtres et les évêques, tandis que maintenant, ils la portent en sautoir sur l'épaule gauche. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est toujours difficile.
C'est comme ça qu'on reconnaît les diacres à l'autel, lorsqu'ils accompagnent, lorsqu'ils sont à la messe. Moi, je me souviens aussi des chapes utilisées lors du salut au Saint-Sacrement et les chapes noires d'absoute. Alors, monsieur l'abbé Ferré, les chapes, c'est quoi?
Alors, il en reste aussi dans nos sacristies des chapes qui sont simplement des capes, c'est le même mot, un vêtement ouvert par devant que l'on met sur les épaules pour aller dehors. Et la chape avait initialement un grand capuchon pour se couvrir la tête. La chape s'appelle aussi, d'ailleurs, un pluvial, un vêtement qui abrite de la pluie. À l'origine, un vêtement utilitaire à porter lors des processions, quand la liturgie pouvait se dérouler à l'extérieur. Elles étaient donc très utilisées jadis, et à mon sens, aujourd'hui, trop délaissé. Il y aura encore bien des circonstances où on peut remettre la chape en honneur. Nous avons dans nos sacristies des chapes anciennes qui sont parfois très belles, remarquablement belles. Et certaines peuvent être portées encore de nos jours. C'est... Un élément, un vêtement qui garde toute sa beauté.
Toute sa beauté, c'est très très beau, oui. Donc il faut, quand les circonstances le permettent, donc c'est intéressant de voir encore ces belles chapes. Quoi.
Oui, par exemple pour la présidence des vêpres solennelles, comme ça se fait d'ailleurs à la cathédrale.
Oui, comme ça se fera au 15 août bientôt.
Ça peut être aussi pour des mariages, pourquoi pas. Mmh. Puis il y a des chapes modernes qui existent aussi dans telle ou telle sacristie.
Alors, monsieur l'abbé Ferré, nous allons évoquer maintenant un dernier point qui a son importance, c'est les couleurs liturgiques.
Alors, de nos jours, des couleurs précises sont attribuées au temps liturgique et aux fêtes. Mais dans les temps anciens et pendant longtemps, aucune couleur n'était spécifiée. On pouvait spontanément choisir une couleur joyeuse pour un jour de fête, une couleur sombre pour un jour de pénitence, et en Occident, le noir pour les jours de deuil. Mais les églises locales étaient en relation les unes avec les autres, et une harmonie a pu ainsi se développer entre elles. Mais une première coordination générale pour l'emploi des couleurs n'est intervenu en Occident qu'à la fin du XIIe siècle. Vous voyez, jusque-là, aucune réglementation, aucune indication pour les couleurs liturgiques. On n'avait pas l'idée qu'il pouvait y avoir des couleurs liturgiques, hein, je souligne ça. Et en Orient, jusqu'à nos jours, on n'a pas l'idée d'une couleur liturgique. On emploie n'importe quoi.
Indifféremment.
Voilà. Toute couleur.
Alors, chez nous, donc.
De nos jours, voici le blanc pour le temps pascal et le temps de Noël, et pour bien d'autres fêtes de caractère joyeux. Mais le rouge, pour la Pentecôte, car l'Esprit Saint vient comme un feu. Et pour la fête des martyrs, le rouge est la couleur du sang versé. Le violet pour le carême et pour le temps de l'Avent. Et le vert pour le temps ordinaire. Mais ça, c'est assez récent, au fond, parce que jadis, le temps après la Pentecôte était en rouge, comme la Pentecôte. C'est pourquoi on trouve encore dans les sacristies de nombreux ornements de cette couleur rouge. À la fête Dieu, le dé du Saint-Sacrement, c'est ce grand baldaquin portable, n'était pas blanc, mais était rouge.
Ah, il était rouge.
On était au temps après la Pentecôte. D'où il y a beaucoup de rouge. Et on a aussi employé le bleu, le jaune, le gris. Et toutes ces couleurs continuent de donner lieu à des interprétations symboliques tout à fait variées, puisque ce n'est pas en raison de symboles qu'on les a choisis, mais à l'usage. Le blanc pour les fêtes, le rouge pour la Pentecôte, etc. En tout cas, que l'on ne perde pas de vue le principe de base qui est porté par le Missel de Paul VI après Vatican II, que le vêtement contribue à la beauté de l'action liturgique. C'est pour ça qu'au fond, quand on a de beaux ornements, ben employons-le, et gardons-le pour les fêtes, mais employons-les aux fêtes, même s'ils sont un peu anciens.
Oui, je pense qu'on essaye dans notre cathédrale en particulier, et même dans les paroisses maintenant, d'utiliser de beaux vêtements liturgiques, qu'ils soient anciens ou plus modernes.
De même qu'un jour de fête, on s'habille.
Eh ben oui.
On va s'habiller mieux.
Eh ben bien sûr.
On va les toutes jeunes générations, je ne sais pas. On a moins le sens peut-être du costume.
On s'habille en dimanche autrefois.
On s'habille en dimanche.
Bah oui. Donc, à l'hôtel aussi.
En semaine, on s'habille pas en dimanche.
Voilà.
Merci.
Notre émission se termine. Merci beaucoup, Monsieur l'Abbé Ferré, de nous avoir éclairé sur le thème des vêtements liturgiques. Si vous voulez réécouter cette émission, elle sera disponible à compter de la semaine prochaine sur le site de Radio Grand Ciel et très rapidement sur le site de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire. Nous nous retrouverons dans un mois pour une autre émission. Merci de votre fidélité et à bientôt, chers auditeurs.
Thank you.